Le thème de ce petit-déj que nous organisons chaque mois ou tous les 2 mois, aujourd'hui, c'est sur l'entretien d'embauche. Donc, Monsieur Pécoul et Madame Navelle vont vous en parler. Ils se présenteront, je vous laisserai vous présenter. Voilà. N'oubliez pas qu'au niveau des formations, des actions qui sont proposées aux doctorants, nous organisons le 30 novembre après-midi l'accueil et la rencontre des doctorants. Donc, vous êtes vivement invités à venir, à y participer. Et ensuite, Naïma vous parlera des formations qui sont proposées, qui sont dans le thème de lettre de motivation, CV et entretien de recrutement. Voilà, bon petit déjeuner, merci.
Alors bonjour, moi je vais me présenter, j'en connais certains. Naïma Mebel, responsable du BAIP de l'UM2, bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Ce bureau est à votre disposition, hein, pour tout ce qui est aide au CV, lettre de motivation, entretien de recrutement et conseils et autres. Et je travaille depuis un certain nombre d'années aussi pour la maison des écoles doctorales, dans la mesure où je propose des modules, et notamment un, là, qui n'a pas fait le plein du tout, qui est le module CV. Alors je lance un appel, si vous êtes intéressé, allez sur le site de la MED et vous verrez que j'ai proposé pas mal de dates sur le CV. Donc c'est un module en 6 heures, 3 heures de conseils sur le CV, etc., les différentes formes de CV. Et les 3 heures suivantes, c'est de la correction en groupe de CV. Donc moi, je vous invite à y aller parce que ça pêche par là quand même, hein, le contact avec les entreprises. Hein, et il y a d'autres modules aussi proposés. J'ai pour habitude, et on a pour habitude au BAIP, de travailler avec Jean-Pierre Pécoul, qui fait partie du Comider. Donc il va présenter brièvement le Comider. Donc ce sont des personnes avec une grande expertise, une grande expérience, qui sont aussi à votre disposition. Donc l'UME2 a signé une convention avec le Comider. Ce sont pour la plupart d'anciens DRH, RH retraités, jeunes retraités actifs, on va dire, et ces personnes donc mettent à votre service leur savoir-faire. Hein. Donc là aussi, hein, on développe un tas d'actions susceptibles de vous intéresser, et surtout, surtout pour favoriser votre insertion pro. D'accord? Voilà. Mais je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour, Corinne Navet. Donc je suis conseillère à Pôle emploi cadre international. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours professionnel, je suis juriste à la base, donc j'ai fait un doctorat en droit et ensuite j'ai une formation en gestion des ressources humaines sur Montpellier 1. Je suis au sein de Pôle emploi depuis 5 ans. Auparavant, j'ai travaillé dans le domaine de la formation, j'étais responsable pédagogique et puis mon premier métier de juriste, j'ai exercé aussi pendant à peu près 3-4 ans. Voilà, donc le marché montpelliérain, j'essaierai de vous en parler quand même un petit peu tout à l'heure, très rapidement. Les questions d'entretien d'embauche, ben je suis à votre écoute pour y répondre au mieux dans les minutes qui vont suivre.
Bon, Jean-Pierre Pécoul, si la durée de la présentation est proportionnelle à celle de la carrière, il me faudra du temps. Ancien jeune docteur. Et double culture, j'en parle parce que c'est une chose peut-être sur laquelle on reviendra. Universitaire, j'ai donc, dans un temps maintenant lointain, soutenu une thèse de sociologie économique, un doctorat donc en sciences économiques et Sciences Po Paris. Alors, double culture, je crois que c'est une chose à savoir, ne serait-ce que pour permettre de distinguer les forces et les faiblesses de ces deux aspects. J'étais surtout, après une thèse donc de sociologie économique, j'étais intéressé par l'industrie. Je suis peut-être un docteur atypique, puisqu'il n'y a aucun rapport entre le premier poste, entre la carrière que j'ai faite et ma thèse de doctorat en sociologie économique, qui est un thème qui m'intéressait. Donc j'ai rejoint un groupe industriel important qui était Shell, à l'époque très implanté en France, 4 raffineries, 2 usines chimiques, etc. Shell s'est progressivement retiré de l'Europe, on peut dire. Et là, j'ai eu une carrière très diversifiée, alternant du staff et du line, de l'état-major et du terrain, en France et à l'étranger. Et mon dernier job à Shell, donc j'ai évolué vers la fonction RH. Et mon dernier job à Shell, j'étais responsable donc d'un département qui coiffait le recrutement. J'ai fait beaucoup de recrutement en tête à tête. Et ensuite, donc, j'étais responsable du recrutement et de la gestion des cadres au niveau national et gestion également des Français pour le groupe Royal Dutch Shell. Ensuite, je me suis retrouvé, j'ai continué de faire du recrutement en cabinet pendant 2 ans. Et le chasseur de tête que j'étais a été chassé par un chasseur de tête pour prendre la direction d'une grande école parce que, en parallèle avec ma vie professionnelle, je m'intéressais de façon active, disons, à l'enseignement. Et on m'a proposé de prendre la direction d'une grande école qui est l'INT Management, qui existe toujours, qui appartenait au groupe France Télécom et qui est une école de gestion des systèmes d'information. Donc j'ai dirigé cet établissement. Ensuite, à France Télécom, donc, je suis venu à Montpellier pour m'occuper de la formation des cadres. Et mon dernier job salarié, j'étais donc rappelé à la direction générale de France Télécom comme chef du service formation. Donc il y a 2 domaines que j'ai fréquentés et pratiqués, qui sont le recrutement et la formation. Alors depuis, je continue d'avoir des activités à petite dose maintenant de conseil en profession libérale, en matière donc de conseil en recrutement et en formation d'entreprise. Je fais un peu d'enseignement. J'interviens notamment dans des masters de management, doctorat et master de management. Alors maintenant, je voudrais abattre 2 jokers. J'ai 2 points faibles face à vous. Le premier, c'est que je ne connais pas le fonctionnement des TPE. Je connais bien le fonctionnement du recrutement dans les grandes entreprises. J'ai fait partie effectivement de cette structure, mais j'ai eu des contacts avec d'autres grandes entreprises. Je sais assez bien comment marchent les grandes boîtes. Je n'ai pas vécu, disons, de façon opérationnelle, le recrutement TPE. Même quand je faisais du conseil en entreprise, c'était auprès de grosses PME et pas de TPE. Premier joker. Deuxième joker, je suis venu à Montpellier parce que la direction à laquelle j'appartenais était basée à Montpellier, mais je n'ai pas de racines montpelliéraines, donc je ne connais pas le tissu économique montpelliérain. Alors voilà. 2 jokers, parce que ça me permettra de dire tout à l'heure, je passe la parole à qui veut la prendre, mais là-dessus, je ne suis pas compétent. Bon, je crois qu'on est là, moi, pour... on s'est concerté avec Corinne, si j'ose dire. On s'est concerté par mail interposé pour dire on n'est pas là pour faire un discours, on est là pour répondre à vos attentes. On est là, donc il faut peut-être amorcer la pompe. Moi, je voudrais vous dire, parce que j'ai quand même réfléchi à une introduction possible... Dans ma vie qui a beaucoup touché au recrutement, j'ai constaté un certain nombre d'erreurs. Et je crois qu'il y a 3 erreurs à ne pas commettre qui figurent finalement un petit peu en filigrane dans toutes vos attentes. Je crois que la première erreur, c'est d'aller rencontrer un recruteur en attitude de chien battu. Là, vous êtes sûr d'être battu. Or, il y a beaucoup de mots qui apparaissent effectivement dans vos questionnaires. C'est la peur de la question piège. C'est... J'ai l'impression effectivement que chez beaucoup d'entre vous, pas seulement les 25 doctorants de ce matin, mais il y a effectivement une attitude un petit peu d'appréhension. Alors, il faut d'abord que vous soyez conscient que vous serez en face d'un homme ou d'une femme qui, comme vous, a peur de se tromper, qui n'a pas la science infuse. Il n'y a pas de QCM, il n'y a pas de mesure de QI. C'est un pari, je reviendrai sur le mot pari, mais c'est un pari que l'on fait. Et il a peur de se tromper parce que se tromper dans quelque sens que ce soit, de dire non à quelqu'un dont on se dit après on aurait dû effectivement le recruter, ou l'inverse. Il a peur de se tromper également parce qu'un recrutement engage beaucoup de choses pour une entreprise, engage de l'argent. Et cette peur de se tromper explique ce que l'on vous dit, vous redira sans doute, mais il faut rassurer le recruteur. Il faut le rassurer en sachant que toute zone d'ombre dans votre CV ou dans votre discours sera interprétée contre vous. Donc vous allez à un entretien de recrutement pour négocier un contrat. Si vous y allez battu, si vous y allez en disant... sur les pattes de derrière, si j'ose dire, en disant « Oh là là, le grand méchant loup va me croquer tout cru », là, vous êtes sûr, effectivement, de ne pas être bon et vous êtes sûr d'être battu. Il y a une deuxième erreur fréquente, c'est que vous êtes en face d'un homme ou vous êtes en face d'une femme qui doit atteindre 2 objectifs. Quelquefois, ces 2 objectifs sont distincts parce que ce sont des interlocuteurs différents, mais ils ne le sont pas toujours, mais ils existent toujours. Il va d'une part chercher un bon professionnel ou quelqu'un qui pourra devenir un bon professionnel, mais il fait aussi un pari sur l'insertion d'une personnalité donnée dans une organisation donnée. Alors, tous les bouquins, là aussi on en reparlera, vous disent effectivement il y a trois critères de recrutement, le savoir-faire et le savoir-être. Savoir-être, on peut discuter là-dessus, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, il y a des tas d'interprétations, on peut parler de comportement, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier aspect est de plus en plus celui qui est déterminant dans un recrutement. Moi, je dis, je ne recrute pas un CV, je recrute une personne et je fais un pari sur la probabilité de réussite d'une personnalité donnée dans une organisation donnée. Ça veut dire que vous n'êtes pas interchangeable, ça aussi c'est peut-être la troisième erreur, c'est que vous n'êtes pas interchangeable au motif que vous avez usé vos fonds de culotte sur les bancs d'une même université ou que vous avez la même formation. Bon, il y a une notion effectivement, c'est difficile pour vous parce qu'il va falloir que vous passiez du collectif à l'individuel. Aujourd'hui vous êtes dans une promo, vous appartenez à un groupe. Vous avez votre code, vous avez votre langage. Là, quand vous serez en entretien, c'est vous, monsieur, madame, mademoiselle, un tel. Et il faut que vous puissiez passer du nous au je et que vous puissiez effectivement comprendre qu'un recrutement, il n'y a rien de plus individuel qu'un recrutement. Alors, en vrac, quelques réflexions pour amorcer la pompe, peut-être. J'essaye quelquefois d'être provocateur, il m'arrive de l'être de façon encore plus violente que ce que je viens de vous dire, mais ça permet quelquefois de lancer la discussion. Je disais tout à l'heure, je crois que c'est contesté par personne, un bon entretien de recrutement, c'est l'occasion de négocier un contrat, donnant-donnant. Vous n'êtes pas un petit garçon ou une petite fille face à quelqu'un de tout puissant. Vous allez négocier un contrat avec lui. Si vous avez envie ou besoin, demain, de vendre une voiture d'occasion, la première démarche que vous allez faire, c'est de vous dire pourquoi mon acheteur est-il intéressé par cette voiture. Ou si vous achetez la voiture d'occasion, pourquoi veut-il la vendre ? C'est-à-dire que la première démarche à faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'interlocuteur. En entretien de recrutement, la première démarche, c'est effectivement, pas forcément la première, mais une démarche essentielle, c'est d'essayer de comprendre ce qu'attend l'entreprise. Et c'est en fonction des attentes de l'entreprise, c'est-à-dire de la politique de recrutement de cette entreprise, que je peux répondre à la question Naïma. C'est-à-dire qu'il y a toujours, effectivement, mais c'est un cocktail en des doses tout à fait variables, hein, mais il y a toujours, je recrute un savoir, un diplôme, des connaissances, c'est important. Je recrute un savoir-faire, de l'expérience, c'est important. Ça peut l'être plus ou moins selon la conjoncture, selon mes propres besoins à moi, recruteur. Et puis j'attends effectivement du savoir-être, c'est-à-dire, je ne dirais pas de la personnalité, parce que je ne cherche pas à connaître, j'y arriverai pas d'ailleurs, la personnalité du candidat. Mais en revanche, ce qui m'intéresse bigrement, c'est son comportement. Il va être dans une équipe avec des gens qui, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, ne lui ressemblent pas. C'est-à-dire qu'il devra coopérer avec des gens qui ont d'autres priorités, d'autres échelles de valeur. Bon, et ça, c'est assez difficile. Ce qui m'intéresse, c'est son comportement. Alors, le dosage entre les trois, bon, va dépendre effectivement du type d'activité. Si vous postulez pour un postdoc et si on vous propose un CDD dans votre domaine d'excellence, qui est celui de votre thèse, bon, le poids, c'est effectivement essentiellement les deux premiers. C'est-à-dire que ce qui emportera la décision, c'est vos connaissances, c'est votre savoir et votre savoir-faire. Le savoir-être importe peu. Si en revanche la même activité vous est proposée par une entreprise de grande dimension qui a des secteurs d'activité très diversifiés, le poids du long terme l'emportera sur le court terme. Ça aussi c'est une notion. J'utilisais pas ces termes tout à l'heure, mais je vous le disais, il y a à la fois recruter, c'est aujourd'hui qu'est-ce que je vais lui donner comme boulot, mais demain, qu'est-ce qu'il est susceptible de faire ? Alors, cette réflexion peut être exprimer de façon claire ou pas. Mais il y a toujours, effectivement, moi, recruteur, je me dirais, les choses vont évoluer, le marché évolue, le monde évolue, on aura d'autres activités demain. Est-ce qu'il sera capable, effectivement, de faire autre chose ? Ce n'est pas faire un plan de carrière. Moi, quand je suis entré dans un âge lointain dans la vie professionnelle, on parlait de plan de carrière. C'est atroce. J'ai d'ailleurs pas donné suite à une proposition de recrutement d'une entreprise qui m'avait dit « Bon, ben voilà, dans 20 ans, vous ferez ça. » Bon, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis allé ailleurs parce que j'étais allergique, je suis toujours à cette notion de plan de carrière. Ça n'existe plus, heureusement. Mais en revanche, il y a toujours effectivement cette réflexion sur la possibilité, sur après. Alors bien sûr, post-doc ou CDD, il n'y a pas d'après. C'est une action très, très court terme. Hein. On va regarder effectivement votre opérationnalité immédiate. Si en revanche vous postulez auprès d'une entreprise publique, privée, peu importe, hein, quand je parle entreprise, ce n'est pas forcément une entreprise du CAC 40, hein. Publique ou privée, il y a effectivement toujours cette réflexion sur la possibilité d'évolution où là, les critères de comportement, de curiosité, d'esprit de synthèse, analyse, de leadership, de qualité d'écoute, etc., tout ce qui n'est pas mesurable et qui devient de plus en plus déterminant, tout ça, ça va prendre un poids considérable. Et il faut s'informer, il y a des tas de possibilités de s'informer. Ce n'est pas seulement Internet, mais se mettre à la sortie de l'usine ou du siège pour voir à quoi ressemblent les gens, c'est contacter des anciens, etc. Dans cette entreprise, quel peut être le poids relatif des trois critères ? Mais ces trois critères existent toujours. Et vous êtes bien préparé en général au premier ou au deuxième, et vous êtes en général pas préparé au troisième à vendre votre savoir-être. C'est pas facile.
Moi, j'aimerais appuyer là sur un point que Jean-Pierre Pécou l'a présenté. On a animé tous les deux, j'ai été responsable pendant 10 ans d'une action d'insertion de docteurs en partenariat avec le pôle emploi au pôle universitaire. Donc, insertion de docteurs. Et je peux vous dire qu'on en a vu passer un certain nombre, hein, des physiciens, des chimistes, des biologistes et autres. Et moi, je me souviens toujours de certains qui s'étonnaient alors qu'ils avaient envoyé le bon CV à la bonne offre d'emploi, qu'ils avaient passé un bon entretien et qui s'étonnaient du refus. D'accord ? Et effectivement, lorsqu'on analysait tout ça, on se rendait compte en fait qu'ils avaient répondu aux critères, ils avaient fait un bon entretien pour pouvoir travailler 6 mois, 1 an hein, dans l'entreprise donnée. Mais en fait, l'entreprise ne les avait pas retenus, ces gens-là, parce qu'on ne les avait pas sentis pour l'année suivante et les années à venir. D'accord ? Ils avaient convaincu à court terme, mais l'entreprise ne pouvait pas parier sur eux sur après. Et ça, c'est très, très important. C'est même chose pour la rédaction des lettres hein, et présentation des CV. Il va falloir que vous répondiez aux critères annoncés du recruteur, mais il va falloir aussi hein, présenter et en proposer davantage pour qu'elle puisse, cette entreprise, se reconnaître et se dire, voilà, très bien, celui-là, je le prends, je le mets 6 mois, 8 mois à la paillasse sur ce poste-là, etc. Mais vous coûtez cher, d'accord ? Vous avez fait un bac plus 8, plus haut niveau d'études, d'accord ? On vous attend sur des compétences d'encadrement, de management, de gestion de projet, et c'est là que si on ne vous sent pas sur ces points-là, c'est là qu'on ne prendra pas le pari de vous recruter, d'accord ? Donc, lire une offre d'emploi, oui, y répondre, oui, mais il faut proposer davantage pour justement rassurer. Et ça, le problème, c'est qu'ils ne l'expriment pas dans l'offre d'emploi. Ils ne disent pas, pendant 6-8 mois, on vous mettra sur ce poste et dans 1 an, nous, on a l'intention de vous confier tel ou tel projet. Et si vous ne le rassurez pas, ça, ce sont les coulisses de l'offre d'emploi. Le problème, c'est que vous ne le savez pas. Hein. Donc, attention à ça, Jean-Pierre, hein, on en a vu un certain nombre qui se, entre guillemets, ramassaient là-dessus. Donc, pensez-y. Hein. On propose plus et plus et surtout, on rassure. Vraiment, on rassure. Le doute, il est là. Tout comme vous choisissez vos amis, vous n'allez pas manger avec n'importe qui, vous n'invitez pas n'importe qui chez vous, mais les employeurs font la même chose. Ils n'ont pas envie de faire rentrer n'importe qui dans leur entreprise. D'accord ? Il y a un contrat, il va y avoir un contrat qui va vous engager, mais qui va les engager. Les procédures de licenciement, moins on s'en sert, mieux on se porte. Donc effectivement, c'est un pari, et la peur de se tromper, elle est de part et d'autre, effectivement, Jean-Pierre l'a dit, et ça, pensez-y. Donc, rassurez. Hein. Voilà, moi, je voulais vraiment appuyer là-dessus.